Et c'est donc aujourd'hui la dernière de Service Public. Et pour cette dernière émission, je voulais me risquer à formuler un conseil de vie, vous expliquer pourquoi les sciences humaines, la philosophie, la sociologie aident à mieux vivre. Depuis longtemps, c'est cette conviction qui m'anime et m'a permis d'animer ce service public. Dans une société compliquée, psychologiquement épuisante et épuisée, le seul vrai salut, je crois qu'il existe du côté de l'esprit, permettre à tous de comprendre le monde qui les entoure. Voilà, à mon sens, la meilleure manière de guérir le pain, d'aider les hommes à mieux vivre, c'est-à-dire à vivre ensemble. Notre monde ne cesse de s'armer contre un grand nombre de fléaux, la maladie, la violence, les catastrophes en tout genre, et cependant, il persiste à ignorer une menace terrible, celle du bruit, celle de la mésintelligence, tous les efforts qui sont faits pour que les hommes continuent à ne pas comprendre le monde qui les entoure. Le but des sciences humaines est résumé dans une injonction, jadis formulée par Montesquieu, « Il n'est pas indifférent que le peuple soit éclairé ». Tant que des êtres penseront nécessaire d'œuvrer à la compréhension du monde, alors tout espoir ne sera pas perdu. Le déferlement de bêtises organisé par le système médiatique contemporain, les buzz, les clashs, le people, tout cela pourra être contenu tant qu'il restera des individus pour chercher dans ces cendres bien froides le tison de la compréhension. Je songe souvent à la frêle silhouette du philosophe Emmanuel Kant faisant le tour de son jardin à heure fixe, alors qu'au loin grondaient les fracas de la Révolution française. Il y a quelque chose d'inouï dans le contraste entre Kant, cet homme chétif, et la force de son esprit, sa capacité à faire tenir au sein de son cerveau la totalité du monde qui l'entourait. Tout le monde n'est pas Kant, Dieu merci pour nous, car je ne suis pas sûr que la vie privée de Kant ait été heureuse. Mais nous avons tous la possibilité de penser ce monde, de le penser et de lui donner un sens. Contre des pouvoirs de plus en plus experts, contre la volonté délibérément politique d'abandonner ce monde à l'incompréhension, nous avons la possibilité de résister, non pas en prenant les armes, en prenant le maquis, pas encore, mais tout simplement en tentant de comprendre le monde qui nous entoure. La voilà, la longue injonction des penseurs qui nous précèdent, qu'ils s'appellent Tocqueville ou Marx, une injonction à nous servir des forces de notre esprit. Certains pensent qu'il ne faut pas comprendre le monde, il faut le transformer. Ils se trompent, le comprendre, c'est l'avoir déjà transformé.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et pour cette dernière de Service Public, je suis tout d'abord en compagnie de mes quatre camarades reporters, Antoine Ny, Raphaël Mantoux, Lénora Krief et Thomas Chauvineau. Bonjour à tous.
Salut
les quatre.
Guillaume.
Bonjour Guillaume.
Vous nous avez emmené le meilleur ou le pire de vous-même. D'ailleurs, chacun décidera et on va vous entendre au fil de cette émission. Une émission dont l'invité unique est Frédéric Lordon. Bonjour. Frédéric Lordon, vous êtes économiste, vous êtes philosophe, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez notamment publié La malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique, un livre d'actualité alors qu'il est question de la crise grecque, alors qu'il est question des sciences sociales aussi, car pour cette dernière, je voulais remémorer le souvenir d'un homme, Pierre Bourdieu, dont on me dit en régie que le son n'est pas prêt. Donc nous écouterons Pierre Bourdieu tout à l'heure, Frédéric Lordon. Bourdieu était quelqu'un qui vous est cher, c'est quelqu'un qui vous est cher même si le sociologue est aujourd'hui disparu. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'économie ?
La conscience que ce qu'il y avait à comprendre essentiellement dans la société passait par l'économie, puisque nous vivons dans des sociétés économiques. Donc c'est une espèce de tautologie qui m'y a amené. Il me semblait que la vocation de l'intellectuel, et je pense que l'extrait de Pierre Bourdieu qui sera peut-être passé tout à l'heure le confirmera à sa manière, la vocation de l'intellectuel est essentiellement critique et elle vise à comprendre ce qui se passe dans la société, qui échappe en partie à la conscience des hommes qui y vivent, qui a à voir avec le travail des pouvoirs, des institutions, avec l'existence de faits de domination, d'inégalité, d'injustice, et que l'essentiel de ces choses-là ramenait à la domination de l'économie sur nos manières de vivre collectives, depuis, telles qu'elles sont installées depuis plus d'un siècle et demi, deux siècles, si l'on veut, sous l'égide du capitalisme. Donc comprendre la société, c'était d'abord comprendre l'économie. Voilà comment ça s'est noué.
Comprendre l'économie, qu'est-ce qu'ils font les autres économistes, selon vous, Frédéric Lordon ?
Ça dépend lesquels, puisque les économistes, c'est une communauté qui n'est pas, heureusement, totalement monolithique, même si elle est dominée par un massif central qui est constitué de ce qu'on appelle les économistes orthodoxes et qui comprennent, eux, l'économie à leur manière, bien à eux. C'est-à-dire qu'ils comprennent l'économie comme un ordre de pratique totalement distinct de tout enjeu politique et en réalité totalement distinct de toute autre forme d'interaction ou d'institution sociale. Comme si l'ordre des pratiques économiques était en quelque sorte autonome et isolé. Ils conçoivent la science économique comme une science autonome et isolée. Alors même s'ils s'en défendent un petit peu, mais mollement par les temps qui courent. Alors que la minorité remuante qu'on appelle les économistes hétérodoxes, elle a toujours pris le parti de considérer l'économie comme une science intégralement sociale et a toujours considéré qu'il était de la dernière aberration d'essayer de pratiquer, de comprendre quoi que ce soit à l'économie sans avoir recours aux lumières des autres sciences sociales et qu'on ne fait pas en réalité d'économie sans être pour une part un peu sociologue, un peu historien, un peu anthropologue, etc., etc. Et peut-être même un peu philosophe. C'est ma façon particulière de pratiquer la science économique.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes dans une unité de philosophie ?
Je suis administrativement, entre guillemets, philosophe et en effet mes travaux sont essentiellement des travaux de type philosophie.
Peut-on encore faire confiance aux économistes, Frédéric Lordon, alors même qu'il y a autant de chômeurs en France, alors même que les problèmes semblent endémiques à l'échelle européenne? Qu'est-ce que cette science qui nous promet une intelligibilité du monde et qui finalement nous laisse dans cette mouise-là?
Comme elle pratique une vision autistique de l'économie comme ordre de pratique séparé de tout, la science économique est devenue elle-même autistique. C'est-à-dire qu'elle n'est même plus capable de regarder en face les formes de son implication dans le monde social historique et de regarder en face les responsabilités qui sont les siennes eu égard aux catastrophes dont elle a largement contribué à l'avènement. Alors là encore, c'est toujours la même chose. Il faut savoir de quelle économie et de quels économistes on parle. Mais enfin, le monde actuel, celui qui est en place, disons, depuis une trentaine d'années, a été assez largement façonné sous l'égide de la doctrine de ce qu'on appelle la théorie néoclassique, qui est en quelque sorte, si vous voulez, le bras scientifique de la doctrine libérale. Et l'ensemble des déréglementations qui se sont produites dans le marché des biens, des services, du travail, des capitaux, évidemment, l'ont été sous les justifications scientifiques, entre guillemets, c'est-à-dire sous les cautions de la science économique dominante, qui certifiait que c'était là le meilleur moyen de faire advenir le meilleur des mondes. Et en particulier, l'énormité de la catastrophe financière qui est survenue en 2007-2008 et dont nous continuons de payer la douloureuse actuellement, cette déréglementation financière s'est opérée, mais alors sous la conduite, j'allais dire sous la férule directe des enseignements de la théorie financière néoclassique, et on en voit le résultat. Et je disais que la science économique est autistique parce qu'elle est à peine capable de faire face à ses propres responsabilités et de se remettre en cause. Pour elle, tout va bien, ou presque, et on peut continuer comme par le passé, grosso modo.
On peut continuer comme par le passé. Alors, en tout cas, sur le plan politique, ça semble être le cas, puisque les régimes persistent dans leur entêtement à prendre, à adopter un certain nombre de décisions en matière économique qui, semble-t-il, produisent les mêmes décisions. Mais pourquoi, dans ces conditions, n'y a-t-il pas une prise de conscience, en tout cas, d'une partie de vos collègues économistes ?
Il y a. C'est précisément pour résister à cet amalgame qui les entraînait à leur corps défendant que les économistes hétérodoxes, qui eux alors formulaient avertissements, critiques, contre-propositions, objections théoriques de toutes sortes depuis très très longtemps, mais qui ont traversé le désert dans une indifférence, alors dans une indifférence de plomb, hein, ont fini par s'organiser sous des formes différentes. Il y a d'abord eu les économistes atterrés, qui est un groupe d'économistes hétérodoxes, dont la vocation est d'intervenir directement dans le débat de politique économique appliquée. Et puis, il y a une association qui est en quelque sorte le pendant académique ou théorique des économistes atterrés, qui est l'AFEP, l'Association française d'économie politique, qui s'est séparée de la très officielle Association française de sciences économiques. Et vous voyez, à la façon même dont on nomme la discipline, s'indiquent déjà des enjeux et des orientations intellectuelles, avec toutes leurs conséquences par après, hein, n'est-ce pas ? Et tous ces économistes luttent pour faire entendre, aussi bien dans l'espace académique, où on le leur refuse, que dans l'espace politique plus largement, et notamment médiatique, un point de vue alternatif. Et c'est le début d'une longue marche, visiblement, puisqu'on leur met des bâtons dans les roues de toutes sortes, notamment dans l'université.
Eh bien, on va continuer à faire entendre ce matin, dans Service Public, ce point de vue différent, alternatif, qui est le vôtre, Frédéric Lordon, sur la crise économique que nous traversons, que nous ne cessons de traverser, puisqu'en fait, on est né avec cette crise, et j'ai bien peur que celle-ci nous survive. On écoute Algie Breezeblocks.
You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Break down our weed, build our breakfast down and save my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely.
C'est de la très mauvaise économie. C'est une économie fondée sur la dissociation de l'économique et du social. Et le social, c'est de l'économique. N'importe quoi. Enfin, il n'y a rien qui ne soit pas justiciable de cette économie. La tristesse, la joie, le bonheur, le plaisir de vivre, le plaisir de se promener dans les rues sans être attaqué, la qualité de l'air qu'on respire. Tout ça, c'est de l'économie.
La voix de Pierre Bourdieu dans Service Public avec notre invité spécial de ce matin pour la DER de Service Public, Frédéric Lordon. Votre réaction par rapport à Pierre Bourdieu. Et par rapport à ses propos, c'est quelqu'un qui vous est cher.
Ah oui, je ne peux pas ne pas être sensible au choix de cet extrait. À la fin de sa vie, Pierre Bourdieu commençait à s'intéresser de près aux questions économiques. L'un de ses derniers ouvrages traitait de ces sujets. Et je pense que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait empoigné la question bien plus carrément encore. Et armé de l'idée suivante que la science économique, enfin, pardon, les objets économiques, les questions économiques ne peuvent pas être abandonnées à une science économique séparée et qu'elle est la chose de toutes les sciences sociales aussi bien. Il faudrait que les sociologues, des politologues s'emparent eux aussi de questions économiques, à leur manière bien sûr, de telle sorte que dans un propos qui radicaliserait en quelque sorte cette problématique un peu usée de la pluridisciplinarité, on en vienne à ce que André Orléans appelle l'unidisciplinarité. L'économiste, qui est d'ailleurs l'un des grands animateurs de l'Association française d'économie politique, appelle l'unidisciplinarité, c'est-à-dire la constitution d'une science sociale des choses économiques.
Raphaël Mantou, puisqu'il est question d'économie et de politique, vous êtes allé voir un homme politique, un élu à la tête d'un petit pays.
Un pays imaginaire, oui. Et c'est le Groland. Le 22 novembre 2012, dans Service Public, vous avez choisi d'aborder la question de la gouvernance de la France avec François Bayrou.
Mais je ne sais plus pourquoi on avait invité François Bayrou.
On se demande toujours pourquoi. François Bayrou, dans tous les cas, gouverner la France en temps de crise n'est pas une chose évidente. C'est la raison pour laquelle j'étais allé voir le Groland, parce que le Groland fait figure d'exemple. Il est dirigé sans heurts. C'est une monocratie incarnée par son chef Christophe Salingros. Le gouvernement est stable, pas de plainte particulière au Groland. C'est un lieu où les gouvernants s'aiment et où les gouvernés aiment leurs gouvernants. Une chose précieuse pour la cohésion en temps de crise. J'avais rencontré donc le président en pantoufle au ministère de la communication grolandaise. On réécoute les conseils du président du Groland.
Qui est à la fois autoproclamé et élu par l'électeur, qui est moi-même.
Vous êtes président depuis une vingtaine d'années. Quel est le secret d'un gouvernement bien gouverné ou d'un pays bien gouverné, comme vous le faites ?
Gouverner, c'est prévoir, on disait. Donc, moi, je pense que c'est au jour le jour. Tous les Grolandais m'aiment. Et moi, j'aime tout le monde. Donc, c'est plutôt l'amour plutôt que le déchirement.
Est-ce qu'il est déjà arrivé que des Grolandais se plaignent de votre manière de gouverner ?
Un des slogans de la principauté, c'est quand même « c'est la fête hein, ».
Vous êtes Grolandais, vous aussi ?
On n'a pas le droit de dire non, donc on est toujours ravis.
Et il gouverne de quelle manière, selon vous ?
On le craint.
Tu fais un bisou, parce que voilà. Vous voyez, les gens m'aiment. Moi aussi, je m'aime beaucoup. Moi-même. Mais on peut voir ici les quelques costumes présidentiels, si vous voulez.
Avec quel costume est-ce que vous gouvernez le mieux ?
Un rien m'habille et tout me va.
Vous avez beaucoup de vêtements, on voit beaucoup de portants.
Les portants c'est important. Il faut que je sois présent partout, donc il y a des moulages du président. Ici une photo officielle. Et vous voyez, je suis de dos et les gens peuvent passer la tête à travers mon séant pour faire une photo comme souvenir. Ça amuse le peuple et puis je ne suis pas qu'un trou du cul.
Vous dites oui à toutes les propositions et toutes les demandes.
C'est une manière d'éclairer les Grolandais. Oui, oui. D'accord. Vous connaissez, oui, oui.
Et vous préférez être craint ou aimé ?
Aimé, qui aime bien, châtie bien. Bonjour, des vrais Grolandais qui ont froid, mais voilà. Mais toujours... joyeusement.
Qu'est-ce que vous pensez de la manière de gouverner de votre président ?
Bah écoutez, je trouve que c'est parfaitement bien gouverné.
Je vous donnerai la petite enveloppe après.
Oui, d'accord.
Monsieur le président, est-ce que vous souhaitez ajouter un mot de conclusion ?
Pourvu que ça dure.
Je vous remercie, monsieur le président.
C'est un plaisir.
Frédéric Lordon, hélas, tous les pays ne sont pas aussi bien gouvernés que le Groland. Il y a aussi l'Europe, il y a aussi les pays qui composent l'Europe et cette crise grecque avec ce qu'on appelle, paraît-il, un problème de gouvernance. On a l'impression aujourd'hui que l'Europe admoneste les Grecs comme on pourrait admonester des petits-enfants. Alors les Grecs sont-ils, selon vous, de petits-enfants ?
La vraie question, ça serait à formuler, serait la suivante. De quoi la crise grecque est-elle la crise ? En réalité, la crise grecque est moins la crise de la Grèce qu'elle n'est la crise de l'Europe, qu'elle n'est la crise de l'Union européenne en ses institutions. Et évidemment, pour masquer cette réalité, il est utile, comme le font un certain nombre un certain nombre d'intellectuels organiques et de journalistes embedded, il est utile de présenter la Grèce.
De journalistes, comment dire, j'essaie de traduire ça, et c'est important.
Journalistes au lit.
En tout cas, qui sont structurellement intégrés.
Ça serait la manière polie de le dire. Il est utile de présenter le malheur grec comme n'ayant d'autres responsables que les Grecs eux-mêmes. Or, évidemment, je comprends que les contribuables européens en général et les contribuables français en particulier soient furieux à chaque fois qu'on leur parle de la Grèce, puisqu'on leur raconte l'histoire grecque uniquement de cette manière. Et comment parvenir à déchirer le voile, en l'occurrence ? Car la réalité est que ce qu'on appelle, par habitude ou par paresse intellectuelle ou par biais idéologique, je ne sais plus comment il faut dire, la dette grecque n'est pas la dette des Grecs. C'est la dette qui résulte de l'impéritie de la politique économique européenne qui a forcé la Grèce à adopter une politique d'austérité radicalisée au moment où elle était vouée à produire les effets les plus désastreux, c'est-à-dire au beau milieu d'une récession consécutive à une crise financière. Je dois vous dire que tout ceci, quand je repense à ceci, ça me fait immanquablement revenir en tête le souvenir d'un livre qui a été écrit par un historien qui s'appelle Georges Vigarello, c'était il y a assez longtemps. Le rapport est pas évident au début, c'était une histoire du saint et du malsain à partir du Moyen-Âge. Et Vigarello fait comme ça une histoire des normes et des pratiques de santé, et en particulier une histoire de la variation des représentations en matière de diététique. Et il parle de cette époque où la doctrine diététique en vigueur indexe directement la qualité de la santé sur la quantité de la nourriture ingérée. De là, ces banquets qui duraient toute une nuit avec 25 plats, etc. Il raconte l'histoire d'un banquet où, fatalement, au tournant du 17e plat, il y en a un rempli jusqu'au prémolaire qui se sent mal et qui s'évanouit. Alors ses amis veulent lui venir en aide, mais il raisonne dans le cadre de la doctrine. Alors ils se disent, s'il s'est évanoui, c'est qu'il ne va pas bien. Mais s'il ne va pas bien, c'est qu'il n'a pas assez mangé. Alors, faut vous imaginez la scène. Le mec est par terre sur le dos, les bras en croix, la bouche ouverte. Et pour l'aider, on lui glisse des petits croutons de pain dans le bec. Eh ben, la politique européenne, la politique économique en Europe, c'est la même chose à front renversé et dans le registre de l'asphyxie et de la strangulation. Vous étouffez à cause de la récession. Pas de panique, nous sommes là, nous allons juste vous étrangler davantage. Et toujours au motif de vous faire mieux respirer.
Mais comment cela se fait-il que personne ne s'en rende compte, Frédéric Lordon, puisque on a tous l'impression qu'on rajoute effectivement d'autres obstacles à la Grèce. On a l'impression que ces remèdes, évidemment, ne peuvent être que catastrophiques pour l'état du pays. Alors que cherchent, selon vous, les institutions européennes ?
Plusieurs choses. Et le fait est qu'il y a un très grand mystère. Il y a un très grand mystère qui est celui de la persévérance aussi obstinée dans l'erreur. Car en effet, le spectacle de l'échec est total. Et pourtant, on maintient la même erreur. C'est ça que je veux... Vraiment, c'est très important. Nous avons là affaire à un cas d'erreur de politique économique appelé à entrer dans l'histoire. De la même manière qu'on avait eu les erreurs de Hoover en 1929, Bruning en 1931, Laval en 1935, c'est exactement la même chose. Alors là, il y a un mélange de choses qui est assez complexe, où l'on va trouver du pur entêtement idéologique, avec d'autres préoccupations, notamment celle de l'Allemagne, qui n'a jamais accepté de faire partie de la construction monétaire européenne qu'à la condition sine qua non de lui imposer ses propres principes monétaires et institutionnels, qui ont d'ailleurs été validés par tous les autres pays, hein, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais, si vous voulez, l'orthodoxie monétaire et l'orthodoxie budgétaire en Allemagne a la valeur d'une croyance quasiment transpartisane, dans laquelle communient les autres gouvernements actuellement, puisqu'ils sont tous, quelles que soient leurs étiquettes politiques, Syriza mis à part, d'orientation réelle néolibérale, et tout ça fait une espèce de coalition ou de coalescence, je ne sais pas comment dire, qui a pour effet que le convoi continue très sûrement vers le précipice.
Alors, heureusement, pour lutter contre le précipice, il y a différentes méthodes. Vous en citiez une tout à l'heure, Frédéric Lordon. Cette méthode qui consistait à faire manger quelqu'un qui était au bord de l'indigestion. Il y a aussi des lavements. Car les lavements, figurez-vous, reviennent à la mode, pas seulement en Grèce.
C'était la même époque, d'ailleurs, des banquets, ce qui était assez cohérent, finalement.
Thomas Chauvineau, vous êtes venu avec votre lavement.
Non, en fait, je pense qu'on est là dans un... Vous évoquiez Marx, Guillaume, tout à l'heure dans votre papier. Je crois qu'on est là assez clairement dans ce service public, dans une doctrine assez marxiste, dans ce sens où vous avez un supérieur qui vous dit « Chauvineau, va te faire laver le colon avec ton micro, ce sera bien pour un reportage. » Et donc Chauvineau, le subalterne, qui s'exécute. Enfin, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et je me suis retrouvé donc dans le cabinet d'une hydrothérapeute. Parce que ça
hydrothérapeute.
Hydrothérapeute, qui s'appelle Catherine Le, qui est d'ailleurs un cabinet tout ce qu'il y a de plus Capignon-sur-Rue, qui est associé
ah oui,
à des cabinets
oui,
médicaux.
Très, tout non, mais à c'est fait. Pour non, dire que c'est rien pas, à voir avec des cabinets interdits. Enfin, oui,
voilà, c'est une dame qui exerce officiellement ce métier, un métier qui consiste à déshabiller quelqu'un, à l'allonger sur une table, et puis bah, vous allez savoir quoi ensuite.
Donc vous enlevez que le bas, vous gardez vos chaussettes, vous gardez votre dignité.
Pardon ?
En gardant vos chaussettes, vous gardez votre dignité.
Uniquement voilà. Les chaussettes.
Pour l'instant, je vous pose la canule. Avec le gel, vous allez me dire si je suis bien dans l'axe. Est-ce que je suis bien dans l'axe ?
Dans l'axe de quoi ?
Ben de votre ampoule rectale.
On dirait, enfin oui.
Voilà, ça y est, la canule est posée.
Alors me voilà donc avec une canule de 2 cm de diamètre, me dit la thérapeute, et même si j'ai gardé mes chaussettes, je vous avoue que j'essaie de pas trop me poser la question de la dignité, parce que je sens bien que là, dans mon ventre, il commence à se passer pas mal de choses rapport à mon côlon descendant.
Là, donc je vais donc stimuler, et vous sentez qu'il y a votre ventre qui bouge, hein, il y a quelque chose qui est stimulé. Vous sentez, ouais. Là, vous voyez, il y a des gaz qui sont démobilisés, plouf, 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 et là, donc, nous vidons.
C'est bientôt fini.
C'est terminé. Je pourrais dire avec beaucoup d'humour que j'ai vu tous les trous du cul de la Terre.
Peut-être pas tous quand même, mais...
Non, mais... Bon, on le dit avec beaucoup d'humour.
Frédéric Lordon, je ne sais pas si nous avons vu tous les trous du cul de la Terre. Néanmoins, lorsqu'on entend certains commentaires sur la Grèce, on se dit qu'il y a quand même des candidats éminents à ce titre.
Oui, c'est certain. Là, pour le coup, si on les redirigeait tous vers le bien nommé cabinet de la dame, elle ferait fortune. Et en effet, la Grèce l'a bien dans l'axe.
La Grèce, là, effectivement, dans l'axe. Lorsqu'on entend là aussi les commentaires qui sont donnés, quels sont les scénarios que l'on peut aujourd'hui imaginer pour la sortie de Grèce? On nous raconte le suspense au quotidien de cette question grecque. On nous évoque un accord qui serait ou non trouvé pour un montant donc de 7 milliards de dollars, qui est en réalité un montant assez faible, puisque comme je l'expliquais en début de semaine, eh bien le rachat de Bouygues par SFR s'élevait à 10 milliards de dollars. C'est la preuve que cette somme n'est pas aussi importante qu'on aurait pu le dire. Du coup, qu'est-ce que l'on peut imaginer aujourd'hui comme scénario, Frédéric Lordon ?
Mais écoutez, on vit une chronique au jour le jour avec un bord du précipice qui est constamment reporté. Et le fait est qu'il faut reprendre un petit peu le calendrier pour savoir exactement à quoi s'en tenir. L'échéance qui a été posée par le sommet européen est celle du 30 juin, car le 30 juin tombe un paiement dû au FMI de 1,5 milliard d'euros. Si la Grèce ne paye pas le 30 juin, que se passe-t-il ? Le défaut sera-t-il déclaré ? Non, car un non-paiement au FMI pour être déclaré officiellement un défaut appelle le jeu de toute une procédure qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc l'échéance du 30 juin n'a aucun caractère terminal ou dramatique. Mais des échéances ne cesseront de se représenter. La prochaine tombera le 20 juillet où la Grèce doit rembourser la Banque Centrale Européenne d'un montant de 3,5 milliards et demi d'euros, puis le 20 août pour un montant à peu près équivalent. Bon, que fera la BCE en juillet ou bien en août si elle n'est pas payée ? Mais ça, on ne le sait pas. Si vous voulez, tout ce qui est en train de se passer échappe désormais largement à l'exercice de la cartomancie économique. Nous sommes dans l'ordre des choses intégralement politique. Alors là, évidemment, la prévision devient plus difficile, et d'autant plus qu'il y a deux côtés, il y a deux parties en présence, et qu'on ne sait pas exactement quel agenda poursuit chacun. Si vous voulez, je pense que la sortie de l'euro pourrait effectivement arriver, mais la question est de savoir si Tsipras la désire, et la réponse est vraisemblablement non. Moi, j'avais rendu ma copie au tout début de l'année, avant même que Syriza n'arrive au pouvoir, et j'avais soutenu la thèse que l'alternative à laquelle Tsipras serait reconduit pouvait se formuler ainsi: passer sous la table ou la renverser. et qu'il n'y aurait pas de tiers terme. C'est-à-dire, soit à peu de choses près, il acceptera les conditions de la Troïka, qui a été débaptisée en les institutions, évidemment ça change tout, soit il n'aura d'autre solution que de sortir carrément. Mais entre les deux, il n'y aura rien. Alors là, nous sommes dans un jeu de dupes, ou plus exactement dans ce qu'en théorie des jeux, on appelle le chicken game. Vous savez, c'est deux voitures se précipitent l'une vers l'autre et on va voir qui cligne de l'œil au dernier moment.
Et on va écouter Léo Ferré, cet extra, tout de suite, immédiatement, sur France Inter.
Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra, cet extra. C'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra. Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché, comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. Cet extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra. C'est extra, c'est extra, c'est extra.
Service public sur France Inter pour l'ADER de service public. Chaque reporter y est allé de son reportage. Et vous, Antoine Lee, vous êtes allé à la rencontre d'une église, une église un peu spécifique, allez.
Ouais, il s'agit de l'église de la très sainte consommation. Alors, ses membres se définissent comme des artivistes, un mélange entre l'artistique et l'activisme. Alors, ces comédiens engagés prônent la décroissance et dénoncent par l'ironie la surconsommation. Leur chef, c'est le pape 40. Il est facile à repérer, hein. Il porte une soutane et un bandeau de tennis sur la tête. Et avec ses fidèles, il interpelle régulièrement les consommateurs dans les rues commerçantes de l'île.
Croissance, croissance, croissance revient. Croissance revient parmi les tiens.
Pape 40,
derrière l'ironie, vous portez un message sérieux ?
On portait un message sérieux, véhiculé par cette force, cette puissance du rire de résistance. Eh bien, le message passe beaucoup mieux, parce qu'on nous traite d'utopistes. Et nous, ce qu'on dit tout simplement, c'est que l'utopie, elle est de l'autre côté. Croire qu'une croissance est infinie dans un monde aux ressources finies, c'est de la véritable utopie.
Au nom du fric, au nom du pèse et du saint crédit, amen, qu'on pèse.
Excusez-moi, monsieur, vous êtes un gros consommateur ou pas ?
Oui, moi je suis un gros consommateur, tout simplement parce que j'aime vivre. Et la consommation, faut être honnête, ça donne de la joie, du bonheur, etc.
Mais il n'y a pas des choses plus essentielles qui peuvent rendre heureux ?
Mais comme quoi, par exemple ?
Bah, se parler, par exemple, ce qu'on est en train de faire.
Mais voilà, je suis heureux de vous parler.
Bah, moi aussi.
Bah, voilà, les choses.
Et pourtant, c'est gratuit.
Voilà, et je peux consommer, parler. Voilà, c'est. Moi, je suis adepte du bonheur. Voilà.
Soyons toujours surendettés et frustrés que le désir nous gagne.
C'est très bien ce que vous dites. Oui, on est dans une société de consommation. J'espère que vous avez une machine à laver et un micro-ondes.
Il ne s'agit pas d'entrer dans ces clichés du retour à la bougie. Ce qui est important, c'est l'éducation, c'est l'accès à la santé, c'est du lien social. Or, nous, ce qu'on nous vend à travers la publicité, c'est acheter une deuxième voiture, une troisième voiture. Le pouvoir d'achat, oui, mais pour ce qui est nécessaire.
Bravo, merci. C'était l'Église de la très simple consommation. À bientôt.
Alors le message de Pape 40 fait des émules, puisque le pape, le vrai cette fois, le pape François a publié son encyclique la semaine dernière, et il y défend l'idée de la décroissance. Pour le souverain pontife, il faut en passer par là pour le bien de l'environnement.
Frédéric Lordon, vous qui êtes économiste et philosophe, peut-on changer de religion, notamment en matière de sortie de crise, pour la Grèce ? Existe-t-il des alternatives ? Lesquelles, selon vous ?
En principe, il en existe toujours. Évidemment, le cœur de la doctrine, ou disons plutôt de l'idéologie néolibérale, comme on sait, tient dans l'énoncé qu'il n'y a pas d'alternative. Mais il y a toujours des alternatives. C'est ça l'essence même de la politique, qu'il y ait des alternatives. C'est l'essence de la politique qu'on puisse faire autrement, qu'on puisse essayer autre chose. Je dirais même que c'est l'essence de la politique démocratique. Et par parenthèse, vous voyez bien en quoi cet énoncé de l'absence d'alternative, qui est, je le redis, le cœur de la doctrine néolibérale, est en réalité une négation du principe démocratique même. Alors en l'occurrence, j'ai énoncé ce qui me semble être la croisée des chemins où la Grèce se trouve rendue, avec d'un côté la solution d'aller à Canossa et de se plier à ce qui lui sera imposé par les institutions européennes et le FMI, et de l'autre de s'extraire de ce cadre institutionnel radicalement, c'est-à-dire de sortir de la zone euro et d'en revenir à sa monnaie nationale qui est la drachme. Alors, sortir de l'euro, on peut sortir de l'euro de plein de manières différentes. Il est évident qu'une sortie de l'euro prônée par le Front National ou en France, ou une sortie de l'euro opérée éventuellement, je crois que c'est très hypothétique en fait, par un gouvernement Syriza en Grèce, ça n'aurait pas du tout la même physionomie. Alors en l'occurrence, qu'est-ce que ça pourrait être une sortie de l'euro, disons, par la gauche ? Ça consisterait à voir que sortir de l'euro n'est pas simplement une opération proprement macroéconomique qui vise à tirer les bénéfices d'une simple dévaluation. C'est beaucoup plus que ça. En réalité, l'enjeu véritable d'une sortie de l'euro, là encore, est politique et tient au fait de recouvrer la souveraineté de politique économique qui se trouve annulée par l'insertion dans les institutions européennes du fait du jeu quasi automatique des traités qui imposent telle politique monétaire, telle politique de change et surtout telle politique budgétaire, de déficit, de dette, etc. Donc, en l'occurrence, il s'agirait de se redonner les moyens pour la Grèce ou pour tout autre pays qui se livrerait à la manœuvre, de réorienter radicalement les principes de sa politique économique. Par exemple, d'en finir avec le statut d'indépendance de la Banque centrale et avec son irresponsabilité démocratique. Donc, rapatrier la Banque centrale à l'intérieur des institutions proprement politiques. Deuxièmement, transformer les structures bancaires. Troisièmement, modifier la manière dont l'économie s'insère dans la circulation internationale des capitaux et en particulier en finir avec des moyens divers de contrôle des capitaux qui ont été déjà parfaitement expérimentés ailleurs, avec ces pressions constantes qu'exerce la finance sur la politique économique, si bien que l'ensemble de la politique économique pourrait être réorienté vers des objectifs qui sont, disons le mot, progressistes. Mais ceci sans méconnaître, c'est la dernière chose que je voudrais dire, que dans l'état extraordinairement dégradé où se trouve l'économie grecque, les périls de cette sortie de l'euro sont très grands et que pour commencer, ça serait sacrément chaotique. Mais là encore, d'autres expériences pourraient nous convaincre que, passé 12 ou 18 mois de chaos initial, le retournement pourrait s'opérer.
Alors ça, Thomas Chauvineau. Pour la Grèce côté intérieur, mais vous fustigiez tout à l'heure la Troïka ou les institutions, en effet, comme on les appelle maintenant. Quelles seraient les alternatives des institutions
pour
ne plus étrangler la Grèce?
Oui, oui. Alors, mais là, cet exercice auquel vous me conviez va consister en une déclinaison du principe général si ma tante en avait. Alors, en effet, si la construction européenne était capable de se sortir de son être actuel et de sauter par-dessus elle-même, un peu comme le baron de Munchausen, elle se tirerait par ses propres lacets, elle ferait de tout autre chose. Alors oui, par exemple, elle commencerait par effacer les dettes grecques en reconnaissant que, pour une très large part, celle qui s'est formée à partir de 2009-2010, cette dette est le résultat de ses propres erreurs de politique économique. Elle financerait un plan de relance par les infrastructures, elle mobiliserait la Banque européenne d'investissement pour des appuis de crédit, etc., etc. Si ma tante en avait, elle ferait tout ça. Le malheur, c'est qu'elle n'en a pas.
Votre tante, je ne sais pas, Lenora Krief, en tout cas, elle a utilisé un certain nombre d'expédients parce que vous savez que lorsqu'on n'a pas la force souhaitée, eh bien on peut utiliser des produits dopants. C'est d'ailleurs ce que l'on a beaucoup fait sur les marchés financiers. Mais vous, Lenora Krief, vous êtes allée expérimenter d'autres produits dopants.
Oui, vous parlez d'une France en carence et s'il suffisait d'une bonne dose de protéines pour faire redémarrer l'économie, ce serait si simple. L'occasion pour moi de revenir sur une émission consacrée au dopage le 15 avril dernier, où vous m'avez envoyé en micro-cachet, Guillaume, dans une boutique de fitness.
Mais à chaque fois, vous étiez consentante, Lenora.
J'ai accepté. Car oui, cette année, les reporters de services publics se sont improvisés espions. En micro-cachet, donc, je me suis rendue dans un de ces lieux étranges réservés aux sportifs, un magasin situé à Paris qui propose toutes sortes de compléments alimentaires vendus sous forme de gélules et de poudres et censés vous permettre de gagner en masse musculaire. J'ai dû mettre mon orgueil de côté et accepter les conseils d'un vendeur à la musculature très développée qui me suggérait ce jour-là tout un plan alimentaire pour me construire un corps.
J'aimerais prendre en muscle assez rapidement.
Alors pour prendre du muscle, le but du jeu, c'est de nourrir son muscle 24 heures sur 24. Il faut qu'il y ait des protéines, des acides aminés qui circulent dans le sang tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est comme qu'on arrive à avoir vos bras qui font à peu près 5 fois les miens.
Oui, encore je me suis calmé. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on veut, c'est sécher, c'est pas perdre du poids. Ce qu'on veut, c'est perdre la graisse et maintenir la masse musculaire. C'est ça une bonne diète.
Et en combien de temps on peut prendre en muscle?
On n'imagine pas à quel point on peut changer un corps en seulement 3 mois.
En 3 mois?
On peut faire des résultats genre waouh.
Donc.
Il y a des gens qui viennent ici, ils disent j'aurai jamais des abdos comme ça. Et je leur dis t'as raison. Déjà, tu mets un obstacle.
Et vous faites combien de sport par jour?
L'important, c'est pas le temps, l'important, c'est l'intensité. Donc, c'est le moins de temps possible. Et dès qu'on a fini, on prend sa prot, on rentre chez soi, on va se reposer.
Vous parlez de prot pour dire protéines?
Oui, parce qu'on dit prot, ouais, protéines. Enfin, attention.
C'est votre 4 heures là?
Ben non, c'est le vôtre.
Oh là, mais moi je vais pas boire tout ça, je vais le goûter. Hein.
C'est un complément alimentaire. C'est pas des drogues.
C'est assez chimique.
Oui. C'est super filtré. Donc là-bas, c'est poudre de protéines et glucides. On appelle ça les gainers pour prendre vraiment de la masse. Après, il y a les. Si on s'en fiche, c'est les boosters de testo.
Boosters de testostérone?
Oui. Testostérone, booster. J'ai pas dit, c'est pas de la testo, c'est des boosters. C'est des plantes qui vont stimuler la testostérone, donc c'est naturel.
Et vous, par exemple, qu'est-ce que vous prenez?
Tout.
Tout?
Et ouais, il y en a, ils sont comme ça.
Votre opinion devient publique en appelant au 01 45 24 7000.
Je précise que Pierre Balester, journaliste sportif qui était votre invité ce jour-là, déconseille vivement ce régime. 50 grammes de protéines toutes les 3 heures, c'est du ressort d'athlètes de haut niveau.
Beaucoup de régimes sont déconseillés, mais hélas, observez notamment des régimes financiers. Ce qui frappe Frédéric Lordon, c'est le contraste entre la situation actuelle de la Grèce, la situation des marchés financiers qui, elle, utilise beaucoup de produits dopants et semble en réalité beaucoup plus irrationnel que le peuple grec dans ses décisions politiques. Comment expliquer ce contraste, ce hiatus entre cette Grèce que l'on admoneste pour qu'elle devienne enfin rationnelle et l'irrationalité exubérante des marchés?
Oui, ça, c'est la grande caractéristique de la configuration néolibérale du capitalisme telle qu'elle s'est installée depuis une trentaine d'années. C'est que c'est un capitalisme qui est dominé par la finance et dont la transformation structurelle majeure a consisté en la déréglementation internationale des marchés de capitaux qui s'est opérée à partir du milieu des années 80 et qui n'a pas cessé de s'approfondir depuis, avec les résultats merveilleux, là encore, que nous avons pu constater. Je m'étais livré à un calcul arithmétique sommaire au terme duquel on pouvait établir que du moment où la déréglementation financière a été lancée, c'est-à-dire 1986-1987, les crises financières s'étaient succédées à un rythme moyen de 2 ans et demi. Jusqu'à culminer dans celle de 2007-2008, dont je veux dire là encore qu'elle est désormais inscrite dans les tablettes historiques du capitalisme. Ça a été un choc d'une violence phénoménale et qui a manqué de très peu de tous nous ramener à l'état de nature économique. Bon, la chose n'a été rattrapée que de justesse, et c'est là, alors si vous voulez, c'est là qu'il y a quelque chose de très très particulier là encore, dans l'entêtement idéologique, mais évidemment, comme toujours, armé d'intérêts matériels extrêmement puissants, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que, alors que la grande crise des années 30 avait été suivie, il est vrai, après la convulsion de la Seconde Guerre mondiale, d'une transformation radicale des institutions et des structures du capitalisme, le capitalisme contemporain, qui a désormais démontré à grand spectacle l'ampleur des nuisances dont il est capable, continue de courir sur son air. Et en particulier, rigoureusement rien n'a été fait pour empêcher le monde financier et bancaire de reproduire les nuisances dont il s'est déjà montré capable, si bien que la crise d'après nous pend au nez comme un sifflet de rond. Et nous ne sommes pas plus armés qu'auparavant, en dépit des rodomontades de l'Union bancaire, pour y faire face.
Nous avons un auditeur au standard, Patrice, qui nous appelle de la Meuse. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Patrice.
Je voudrais remercier Guillaume pour vos émissions et vos billets d'humeur. Vous avez parlé tout à l'heure de sociologie, et pour avoir un fils jeune sociologue, j'ai été conforté dans l'idée de remettre en cause pas mal de poncifs. Et
merci,
de traiter, dans l'esprit de votre premier reportage, ce que j'appelle, si vous me permettez ce jeu de mots, les hémorroïdes de nos sociétés.
Oui, je vois de quoi vous voulez parler, mais je ne suis pas sûr que Thomas Chauvineau soit concerné. Enfin bon, continuez Patrice.
Pour revenir à ma question, les analystes économistes raisonnent souvent en circuit fermé avec une absence de pensée divergente et de pensée systémique. Ils ont une pensée qui ne tient que peu compte de l'épuisement des richesses et des incidences sur l'environnement. Ça se paiera un jour ou l'autre très cher. L'économie et les grands acteurs économiques, à mon sens, dirigent la politique et corrompent intellectuellement les citoyens, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur votre antenne en dénonçant le scandale de Bure dans la Meuse. Et je me demande s'il y a vraiment une solution économique purement française. Est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir uniquement, forcément en passant par l'Europe? Et puis rêvons un jour, un peu d'utopie, par une solution mondiale basée sur un socialisme humain.
Merci pour cette remarque, Patrice. Une réaction par rapport à ce que vient de dire Patrice, Frédéric Lordon.
On ne peut pas dire, ça brasse large comme question. Bon, les économistes ne sont pas tous bornés à ce point, mais il faut bien reconnaître que c'est pas la majorité d'entre eux qui se préoccupent de ces questions, qui sont en effet je parle des questions d'environnement, d'épuisement des richesses et des matières premières, de l'environnement, etc. Par exemple, quelqu'un comme Jean Gadret s'y intéresse de très près. Mais alors là, il faut, si vous voulez, il faut bien voir dans quelles inextricables contradictions la crise présente nous plonge. C'est que nous sommes sous le coup d'une urgence à relancer la croissance pour retrouver de l'emploi, car telle le veut la grammaire du capitalisme dans laquelle, pour l'instant, que nous le voulions ou non, nous sommes plongés. Et en même temps, on peut opposer à bon droit à cette recherche frénétique de ce qui pourrait relancer la croissance, le fait que le surplus de croissance continue d'accumuler des problèmes à long terme. Et comment sortir de là ?
Et on va en sortir parce que c'est la fin de l'émission et j'accueille mon ami Bruno Duvic. Bonjour Bruno.
Bonjour Guillaume.
C'est vous qui, à la rentrée, allez reprendre le créneau du 10-11 sur France Inter. Ouais. Que proposerez-vous aux auditeurs?
Écoutez, on va prolonger le travail que vous avez fait fort bien toutes ces dernières années. D'abord, être à l'écoute des auditeurs de France Inter sur des sujets qui parlent de leur vie quotidienne, qui parlent des questions de société en France. Et puis en plus, aller à leur rencontre, aller les voir dans les écoles, les entreprises, les lieux de culte, les lieux de vie. Dans chaque émission, il y aura un long reportage pour aller à l'écoute des Français, là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils se rencontrent, là où ils draguent, etc. Et évidemment, l'idée n'est pas de rester à Paris, hein, mais d'aller absolument partout en France. Et ensuite, donc, dialogue avec les auditeurs et les invités de l'émission, émission de reportage, de dialogue, d'écoute. On entendra des voix qu'on a entendues encore aujourd'hui dans ce studio et dans cette émission. Et ce sera donc à partir de la rentrée le lundi 24 août. Je ne vous donne pas encore le titre parce que les experts du service juridique de Radio France doivent travailler dessus.
Merci Bruno, on vous écoutera donc à 10h à la rentrée. Frédéric Lordon, on va suivre évidemment les développements de la crise grecque. En un mot, pensez-vous que le pire soit certain avec ce qui est en train de se produire en ce moment?
Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet avenir-là, pour proche qu'il soit, est totalement impénétrable et il est abandonné aux calculs stratégiques et aux réactions politiques qui demeurent pour l'instant tout à fait mystérieuses.
Merci beaucoup Frédéric Lordon d'être venu pour cette dernière. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez rédigé, consacré à la Grèce, la malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont accompagné depuis 4 ans. Un grand merci à Olivier Bétard, Stéphanie Texier, aux 4 reporters que vous avez entendus aujourd'hui, Raphaël Mantou, Lénora Krief, Thomas Chauvineau, Antoine Ly, Chantal Le Montagnier et Élodie Piel. J'ai un mot à dire à leur sujet, au sujet du fait de travailler avec eux. J'ai l'impression de ne pas avoir travaillé depuis 4 ans, alors même que nous avons travaillé tous les jours. Et donc, ça a été un véritable plaisir. Merci à tous et bon été.
Merci à toi.